bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories de jeunesse. Il y a les jeunes professionnels, donc ceux qui travaillent, et ceux qui sont la jeunesse également estudiantine, donc ceux qui vont à l'école et qui ne travaillent pas vraiment. Et il y a cette jeunesse-là que je qualifie du juste milieu, qui non seulement ne travaillent pas, qui ne vont pas à l'école, mais qui souvent sont à la maison ou assistent les parents à la maison ou essayent de faire de petits travaux pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, c'est trois catégories de jeunesse et c'est souvent avec ceux-là qu'on travaille beaucoup plus dans la vie active. Maintenant, la catégorie de la jeunesse estudiantine, c'est essentiellement cette jeunesse qui est tournée vers les réseaux sociaux. Donc ils utilisent Internet beaucoup plus pour les réseaux sociaux et lorsque je parle de réseaux sociaux, je mets en premier niveau Facebook. Donc la jeunesse estudiantine utilise énormément Facebook, tout simplement pourquoi ? Parce que ça leur permet de tisser des relations avec d'autres amis dans les autres établissements et aussi à travers d'autres amis dans leur même établissement. Donc c'est ça très facile de voir des jeunes qui sont dans les milieux scolaires ou à l'université avoir facilement 5000 amis sur Facebook et voilà, ça va très vite parce que tout simplement de la classe de peut-être 6e à l'université, ils se tissent beaucoup de relations et ils essaient de garder cette relation, même si d'autres amis ne sont pas passés en classe supérieure et que d'autres sont restés. Donc, avec Internet, ils utilisent ça beaucoup plus pour garder cette relation-là. Et après, en deuxième position, ils utilisent aussi WhatsApp. Donc, WhatsApp, ça permet avec le numéro de téléphone de garder contact et d'échanger là-dessus. Maintenant, la jeunesse professionnelle, c'est beaucoup plus cette jeunesse qui utilise la connexion Internet, mais liée au travail. Donc, c'est grâce à leur travail, ils ont la connexion Internet et ils utilisent cette connexion Internet non seulement pour travailler, mais aussi peut-être bien pour des activités parallèles. Donc, grosso modo, c'est cela. Et maintenant, cette jeunesse qui est juste au milieu, souvent a des difficultés à avoir accès à Internet. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour s'offrir la connexion Internet. Maintenant, il faudrait savoir une chose. Toute cette condition de Internet est liée à la capacité de la connexion Internet en Centrafrique qui est très basse. Cette capacité est très basse car, premièrement, ce n'est pas tous les jeunes qui ont les moyens pour payer le support de Internet, pour utiliser Internet. Et deuxièmement, le coût d'achat de la connexion Internet est très élevé. Donc du coup, voilà, c'est pas donné à tous les jeunes d'avoir cette opportunité-là pour utiliser Internet. Donc voilà, un peu cette catégorie de jeunesse et les difficultés qu'on peut rencontrer en nous avec les clubs de lecture et autres, voilà, ces difficultés qu'on peut avoir facilement, qui remontent. Maintenant, pour obtenir des informations ici, ça se passe de deux manières. Première méthode, c'est quoi ? Nous, on a la connexion Internet pour le boulot et on utilise ça non seulement pour faire des recherches, pour recherche de financement, mais également recherche pour l'archivage de certains registres de lecture que nous aimerions bien avoir. Maintenant, cette connexion Internet est assez limitée car ça nous coûte très cher et c'est nous-mêmes sur la base de nos recettes qu'on essaie de ressortir le plus-value pour avoir à acheter la connexion Internet. Donc, on ne bénéficie pas de subventions, on ne bénéficie de rien pour nous permettre de faire cela. Donc, du coup, la connexion Internet est vraiment calculée au millimètre près pour nous permettre de nous servir non seulement pour alimenter notre page Facebook, nos sites Internet, mais également de permettre de chercher les sources de financement et aussi des informations connexes pour nous permettre d'archiver. Maintenant, la majorité des jeunes, pour avoir l'information, soit ils ont cette information à l'école, donnée lors des cours, soit ils ont cette information-là donnée par des amis, soit ils ont cette information-là dans les bibliothèques à travers des livres papier. Mais très peu de jeunes vont sur Internet pour se documenter et avoir des informations. Très peu de jeunes. Maintenant, cela va de soi. Comme je l'ai dit, il y a deux catégories, trois catégories de jeunesse. Maintenant, la jeunesse estudiantine utilise beaucoup plus les téléphones portables et la jeunesse professionnelle utilise beaucoup plus les ordinateurs car ça fait plus de données qu'ils ont besoin d'avoir et des données dont peut-être qu'ils ont besoin de modifier, ce qu'ils ne peuvent pas forcément avoir à faire avec le téléphone portable. Non, c'est très rare. C'est très rare pour des jeunes d'avoir des ordinateurs personnels car souvent même au travail, la connexion Internet est paramétrée en fonction de l'ordinateur. Donc, ils ne peuvent pas utiliser leur propre ordinateur personnel pour avoir accès à cette connexion. Donc, du coup, l'avantage, c'est que dans beaucoup d'institutions, ils sont flexibles dans la mise à la disposition de l'ordinateur au personnel. Car ils savent que si le personnel abîme l'ordinateur, le personnel est obligé de rembourser sur la base de son salaire. Okay. Donc, du coup, c'est un risque que le personnel prend, mais c'est un risque mesuré car ça lui permet aussi d'être bénéfique pour lui. Donc voilà, c'est très rare de voir de la jeunesse ou bien du personnel utiliser de l'ordinateur personnel pour se connecter dessus, c'est très rare. De temps en temps, mais c'est essentiellement réseaux sociaux et peut-être pour se distraire, car aujourd'hui il y a des jeux connectés en ligne qui ne consomment pas beaucoup de connexion internet et voilà qui permettent voilà ces jeunes-là de se distraire comme des jeux de foot et autres là sur téléphone portable. Donc c'est essentiellement ça que les gens utilisent pour les réseaux sociaux et pour se distraire. Surtout ces deux-là, c'est sur cette base-là que internet fonctionne ici. Si je prends l'exemple, lorsque moi personnellement j'étais encore en classe de 3e, j'étais encore au lycée des Martyrs ici, il n'y avait presque pas d'internet, carrément pas encore internet, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 2003. 2002-2003, et pas du tout internet libre d'accès. Donc pour avoir accès à internet, il fallait aller dans un cybercafé. Et dans un cybercafé, l'utilisation d'internet était exclusivement pour avoir accès à sa messagerie en ligne, donc pour lire ses emails. Donc internet était limité à ça. Maintenant, lorsque je suis arrivé en classe de terminale, ça a totalement changé, car au-delà d'aller lire ses messageries, maintenant on sait qu'on peut aller faire des recherches et ainsi de suite. Et après, maintenant à l'université, on remarque carrément que, et là je ne le dis pas que en fonction de ma classe à moi, mais en fonction du changement qu'Internet a apporté dans l'environnement de la jeunesse estudiantine, car on remarque aujourd'hui qu'est-ce qui se passait. Je me rappelle lorsque je faisais deuxième année de droit, nous étudiants de droit, on avait notre groupe sur Yahoo, donc Yahoo groupe qui nous permettait d'échanger sur des thématiques liées à notre cours, donc on n'était pas forcément obligé d'être là, donc ça nous permettait, si nous on faisait nos recherches, on avait des documents pertinents, on pouvait mettre dans le groupe pour permettre de servir à tout le monde. Et ça, je crois bien que c'était lorsque j'étais encore en deuxième année qu'on commençait déjà à le faire. Et lorsque je suis revenu en centre d'affaires en 2017, je remarque que c'est presque la même chose que les gens font ici, mais surtout pour ces gens de groupe de travail, ils utilisent Facebook, donc c'est plus facile. Donc WhatsApp, ils utilisent WhatsApp tout simplement. Pourquoi? Parce que sur WhatsApp, c'est lié directement au numéro de téléphone de chacun d'entre eux, ils peuvent s'appeler ou ils peuvent aussi se partager des informations comme des vidéos et autres. Donc internet a beaucoup plus changé l'aspect surtout relationnel qu'il peut avoir entre les jeunes dans une période à maintenant. Donc ça rapproche plus les gens, ça rapproche plus les jeunes. C'est quand même que les forfaits que les téléphonies mobiles proposent ici, il y a des forfaits adaptés, donc il y a des forfaits nuit, où les personnes peuvent activer leur forfait et utiliser ça uniquement la nuit, et c'est un peu élevé. Et il y a des forfaits par semaine, il y a des forfaits par mois. Donc cela dépend maintenant de l'argent que la personne gagne pour investir là-dedans. Tout en sachant que pour un père de famille, lorsqu'il a la connexion internet, il doit penser à la connexion internet de ses enfants également, car les enfants ne travaillent pas et c'est de lui que les enfants vont dépendre pour avoir ces genres de petits besoins. Donc du coup, si une personne gagne le SMIC, la connexion internet, de manière rationnelle, ça peut lui coûter environ, je peux dire... il fera l'effort pour que ça ne dépasse pas 20% de son salaire. Pas 20%. Donc ça peut nager entre 5% à 20%, mais ça ne dépassera pas 20%. Car la priorité, surtout pour un père de famille, c'est quoi? C'est la scolarité de son enfant, c'est les besoins de la maison pour son enfant et également les besoins primaires pour sa famille. Maintenant, pour la jeunesse en tant que telle, je sais que la connexion internet en matière de jeunesse, ça si c'est question de besoin, lorsque ce jeune-là acquiert un petit sou de ses oncles, de ses amis et autres, la connexion internet fait 50% de ses dépenses. Donc la connexion internet et les appels fait 50% voilà, des dépenses de la jeunesse.
Ok. Et au niveau de la maison d'édition, vous êtes très actif sur Facebook, les réseaux sociaux.
Exactement, car en 2017, lorsqu'on a créé la maison d'édition, on a d'abord créé notre site internet. On a créé le site internet et c'est au bout de, disons, 3 mois, on a remarqué qu'il n'y avait pas assez de visibilité sur notre site internet parce qu'on a créé le site internet et on a créé également une page sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on s'est dit que voilà, ça fait assez professionnel et là, on peut vraiment, voilà. Mais malheureusement, en Centrafrique, c'est pas les choses qui sont les plus utilisées pour la jeunesse. Donc du coup, lorsqu'on avait commencé, au bout de 3 mois, on a remarqué qu'on a eu à peine une moyenne de 10 personnes qui venaient là pour voir. Parce que ces 10 personnes, c'est lorsqu'on les rencontre, on leur parle du produit, on leur fait voir ça et ils vont pour voir. Et après, on a constaté que tout le monde était sur Facebook. Et c'est 3 mois plus tard qu'on a créé notre page sur Facebook. Et lorsqu'on a créé notre page sur Facebook, on a eu un grand boom avec près de 8000 vues régulièrement sur chaque publication qu'on faisait au départ. 8000 vues. Donc c'est là où on a compris montrer que la pertinence était de se mettre sur Facebook pour avoir plus d'audience et plus d'interactions. Et on est régulièrement contacté pour des besoins d'édition, des retours de lecture de ceux qui font la lecture de nos ouvrages. On les reçoit plus sur Facebook que sur notre messagerie web, c'est-à-dire sur notre adresse mail. Donc les gens nous répondent plus sur Facebook parce qu'il y a l'option Messenger de Facebook où ils peuvent cliquer pour nous contacter directement. Donc ils utilisent plus ce canal-là que notre site internet ou bien sur notre mail. Donc voilà.
Vous utilisez aussi Instagram?
Instagram, non, pas encore. Pas encore, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est depuis un an et demi que c'est très développé en Centrafrique. Mais le gros problème au niveau des éditions Bangui, si on l'utilise, ça veut dire qu'il faudrait qu'on mobilise aussi des ressources pour la gestion de cela. Et on n'a pas assez de financement, donc on évite de mobiliser trop de ressources car après, ça sera difficile après à gérer.
Mais vous savez, un community manager...
Exactement. On a deux community managers et ces deux community managers s'occupent de deux volets assez, je peux dire, assez lourds pour eux. Lourds pourquoi? Parce que premièrement, leur rôle de community manager, c'est de sensibiliser physiquement la jeunesse centrafricaine à s'intéresser à la lecture.
Okay.
Car on sait qu'il y a deux types de réalités. Il y a la réalité virtuelle et il y a la réalité physique. Donc la réalité virtuelle, c'est le fait que la personne vient nous dire que je suis intéressé par votre contenu et ainsi de suite. Malheureusement, ce contenu n'est pas disponible en ligne. Car nos livres, si on les mettait en ligne, ils allaient copier, coller ça et l'auteur n'allait pas bénéficier de son droit d'auteur. Donc du coup, il fallait cette proximité de réalité physique pour intéresser cette jeunesse-là à changer. Donc essentiellement, les community managers, ils sont sur le terrain pour sensibiliser à ce que ces jeunes-là, certes, aillent sur les réseaux sociaux avec nous, suivent ce que nous faisons, mais de manière pratique, qu'ils aient le papier, le livre, qu'ils lisent le livre, qu'ils intéressent les autres à lire le livre. Donc c'est essentiellement ça que leur travail consiste à. Maintenant, parmi les deux community managers, on essaie un peu maintenant en matière de pourcentage équilibré en sorte à ce qu'un puisse non seulement s'occuper du terrain, mais aussi de l'aspect numérique, et l'autre se concentre uniquement sur le terrain. Uniquement sur le terrain. Donc celui qui s'occupe maintenant de l'aspect numérique, c'est lui qui partage son temps entre être sur le terrain et reporter certaines informations en ligne.
Mm-hmm.
Donc c'est grosso modo. Ce n'est pas question que les autres n'ont pas essayé.
Mm-hmm.
Donc il y a eu deux tentatives de création de maisons d'édition en Centrafrique qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas abouti.
À quelle année?
Je crois que c'était en 2003. 2002-2003, avec l'ancien directeur de l'Alliance française qui avait voulu mettre les éditions des Rapides et ça n'avait pas abouti. Et la seconde maison d'édition, c'est la maison d'édition de Adrien Poussou, les éditions Poussou, qui est également, bon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas inactif, ils sont toujours là, mais ils ne sont presque pas actifs parce que l'éditeur vient en France. Donc il fait produire les livres en France pour les envoyer et souvent avec la douane et tout ça, souvent ça rend assez difficile l'accès aux livres. Donc ces deux éditions peinent un peu à fonctionner tout simplement parce que voilà, pour la première maison d'édition avec les éditions du Rapide, des Rapides plutôt, c'était le comité d'organisation mis en place qui était lourd parce que c'était constitué, comment il s'appelle là, du Monseigneur de l'Église catholique, c'était constitué de grosses personnalités et finalement pour que ces personnalités se réunissent pour faire valider les ouvrages, c'était assez pénible. Et maintenant pour Adrien Poussou, c'est juste que sa structure de production est à l'étranger et faire venir les livres sont assez aussi difficile à cause de la douane, des taxes qu'il faudrait, et le coût de transport aussi pour prendre le livre et ramener le livre. Donc c'est un peu cela. Et nous, lorsque personnellement j'étais arrivé en 2017, parce que moi j'étais en train de travailler au Bénin, je travaillais au niveau de l'Institut français du Bénin, et comme mon contrat arrivait à expiration en 2016, et c'est là où je me suis dit bon, ça sert à rien de rester à faire l'étranger, car j'ai quitté la Centrafrique depuis 2006. Je suis parti d'abord pour les études et ensuite j'ai trouvé du travail au Burkina et ensuite je suis allé à Lomé pour revenir au Bénin et je me suis dit bon, ça sert à rien de rester là-bas, mieux vaut revenir en Centrafrique et trouver quelque chose à faire. Et c'est comme ça que je suis revenu en Centrafrique en 2017. Et lorsque je suis arrivé, j'étais là-bas, j'étais déjà écrivain. Et lorsque je suis revenu ici, j'ai vu qu'il y avait un problème avec les écrivains parce que les écrivains ne sont pas bien vus, les ouvrages n'étaient pas disponibles. Et c'est comme ça que j'ai appelé certains amis qui étaient en France, au Sénégal. Je leur ai dit, voilà, j'ai une initiative comme ça, je voulais bien mettre de l'argent de côté pour le faire. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse cotiser ensemble pour créer cette structure-là? Et c'est là qu'ils étaient d'accord. Et on a commencé à cotiser en 2017. Donc on a commencé à cotiser depuis janvier 2017. Et c'est pour cela qu'on a créé la maison d'édition en avril 2017. Donc, on a pris, je crois, 5 ou 6 mois de cotisation. Mm-hmm. Et c'est sur la base de ces cotisations-là qu'on a fait les papiers nécessaires, on a créé la structure. Et voilà, on essaie de fonctionner essentiellement sur la base de nos cotisations et des recettes qu'on fait sur la vente des ouvrages. Le métier de l'éditeur est une fusion de, on peut dire, trois grands acteurs. Trois grands acteurs, premièrement, l'acteur final qui est une imprimerie. Deuxièmement, l'acteur central qui est ce gestionnaire de projet qui va à l'encontre du projet intéressant, c'est-à-dire le livre qui peut intéresser le public, le livre qui peut bien se vendre. Et troisièmement, le retour des écrivains. Donc, écrivains comme lecteurs doivent obligatoirement impacter dedans pour que le produit final puisse être parfait. Donc, ces trois acteurs-là sont obligatoires pour que l'édition puisse être définitive. Malheureusement, ici, on a ces trois acteurs-là de manière séparée. Donc, les imprimeurs sont de l'autre côté, les écrivains sont d'un autre côté, et également les gestionnaires de projets ici en Centrafrique ne s'intéressent pas du tout au livre, parce que le livre, ça ne rapporte pas. Donc, les projets qui rapportent, c'est des projets financés par les grandes institutions comme la Banque mondiale et autres. Donc, tout le monde est reversé là-dessus. Du coup, le livre est totalement délaissé à elle-même et à lui-même plutôt. Et c'est ça qui pose le véritable problème. C'est ça qui pose le problème. Notre catalogue aujourd'hui. On a près de 43 livres, je pense bien 43 livres qu'on a déjà édités pour un total de près de 60 à 80 écrivains. Car certains livres que nous éditons sont de qu'on appelle des auteurs, c'est co-écrit par plusieurs écrivains. Donc il y a un livre qui peut être écrit par peut-être 24 écrivains parce que chacun amène ses petites nouvelles. Voilà, donc on a en total plus de 40, près de 43 écrivains, si je ne me trompe pas, pour une 60 à 80 écrivains. Que nous avons des romans, des poèmes, des nouvelles, de la lecture pour jeunesse. Malheureusement, on n'a qu'un seul livre de coloriage pour jeunesse et on a des ouvrages de lecture rapide. Donc, lecture rapide, c'est des petits livrets qui se lisent très facilement. Et aussi, on a des essais littéraires qui touchent de la politique, voilà, de la motivation et ainsi de suite. Uniquement centrafricain, car les éditions Bongui a trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est de valoriser le plus que possible la littérature centrafricaine. Donc on fait l'effort pour que ce soit des ouvrages centrafricains pour le public centrafricain et pour que les personnes étrangères puissent venir découvrir cette culture, cette richesse centrafricaine. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et deuxième objectif, c'est que l'écrivain doit vivre de son livre. Donc le livre de l'écrivain doit nourrir l'écrivain, donc c'est pour cela qu'on n'attend pas forcément que l'écrivain fasse du marketing sur le livre. Nous-mêmes, on essaie de mettre en place une politique pour le marketing pour que l'ouvrage soit bien vendu, car chez nous, on a mis en place une politique où l'écrivain bénéficie des 25% du coût d'achat de son livre.
Okay.
Donc là, c'est sur la base du contrat, où chaque 23 avril, qui est la journée internationale du livre et du droit d'auteur, nous appelons tous les écrivains, nous faisons l'état des ventes et nous leur reversons les 25% pour leur permettre, voilà. On sait que ça fait peu, mais quand même, ça leur permet au moins d'avoir quelque chose de ce qu'ils ont réfléchi pour mettre en action. Et notre dernier objectif, c'est quoi? C'est de faire donner ce réveil-là de la littérature en Centrafrique. Donc ce réveil-là, on se veut que quoi? On se veut sur des thématiques assez diverses, par exemple, le système éducatif centrafricain. Au niveau du lycée, c'est-à-dire collège et lycée, donc les ouvrages au programme, la manière de fonctionner des lycées, des collèges, a été mise en place depuis les années 85. Donc depuis 1985, ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Or, on sait qu'il y a de nouveaux écrivains qui sont arrivés, il y a de nouvelles histoires et de nouvelles politiques qui doivent être promues, qui ne sont pas faites. Et du coup, on se dit, est-ce que peut-être parce qu'il n'y a pas assez de contenu que le système éducatif ne veut pas changer, donc nous, on propose du contenu. Et aussi, on se dit, est-ce que c'est besoin de volonté politique? Donc nous, on essaie aussi d'accompagner là, faire des actions assez associatives à travers une association des écrivains qu'on a mis en place depuis 2019. Et on essaie un peu de pousser pour que les choses voilà, puissent changer. Donc ça, c'est un des combats qu'on essaie de mener. Et un autre combat aussi, c'est la représentativité des écrivains. Parce qu'aujourd'hui, dans les différentes institutions, très peu d'écrivains sont représentés. Donc très peu d'écrivains sont valorisés. Or, dans les années 90, il y avait beaucoup d'écrivains comme des Pierre-Samuel Macroy et Étienne Boinidé qui étaient intéressés au bien bien public afin de permettre à ce qu'ils puissent impacter aussi dans le développement de la littérature pour le pays. Donc c'est des petits combats qu'on essaie aussi en troisième objectif de mettre en avant pour nous permettre voilà, d'avancer.
Ok.
Non, ça dépend. On part d'abord sur le principe de 50 exemplaires par titre. Maintenant, il y a des titres qui sont bien vendus et les 50 exemplaires finissent vite. Et lorsque ça finit, on renouvelle automatiquement le stock. Oui. Vous voyez, maintenant, pour ceux que ça finit pas vite, on essaie de mettre en place des politiques du genre avec les clubs de lecture où on leur donne gratuitement cela. Et nous, Éditions Bondy, on paye ça à l'auteur pour lui permettre à l'auteur aussi de vivre et que son ouvrage soit connu. Oui. Je ne marche pas ici parce qu'il n'y a pas de bibliothèque nationale en Centrafrique pour l'enregistrement des livres. Maintenant, nous, on a des succursales avec lesquelles on est en partenariat où on enregistre nos livres, soit au Cameroun, soit au Bénin, soit au Sénégal, soit en France, pour permettre d'avoir le numéro du dépôt légal et le numéro ISBN de ces pays-là. Et ça nous permet de les reproduire ici. Vu qu'on est en partenariat de coproduction, donc nous, on fait juste là. On a l'aspect légal là-bas et on fait la production de la production ici. Donc voilà, c'est ça. Que le ministère des Arts et du Tourisme nous a convié pour une session où ils voulaient mettre en place la politique du dépôt légal sur place ici. Et moi je dis que ce sera une bonne chose si c'est cela vraiment mis en place. Oui. Mais il y a une politique quand même qui sont en train de développer. Il y a un projet de loi qui est déjà en cours d'élaboration au niveau du ministère qui doit être adopté par l'Assemblée nationale pour ça. Oui, mais non, pour les l'OAPI, l'Office de la propriété intellectuelle, ils sont assez limités. Ils sont assez limités car en fait, leur politique de fonctionnement, c'est juste de protéger l'ouvrage ou l'ingéniosité de l'auteur. Donc eux ils mettent en place une politique pour protéger cet ouvrage là et cette politique là c'est quoi? C'est un enregistrement, une authentification, et c'est la même chose que le bureau du droit d'auteur, c'est-à-dire le BICADA, et fait également la même procédure. Donc ils sont là juste que pour protéger l'ouvrage de l'auteur, mais cela ne donne pas de la valeur à l'ouvrage en question. Et seconde chose aussi, c'est quoi? Ils n'ont pas de moyens coercitifs, c'est-à-dire lorsque l'ouvrage est falsifié, ils n'ont pas cette possibilité-là de savoir si c'est falsifié, s'ils peuvent réprimander et autres. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Contrairement à un dépôt légal qui, après, ça permet non seulement à l'auteur, c'est-à-dire à l'ouvrage, d'avoir un numéro d'immatriculation, de savoir que voilà, on a un certificat de non-falsification qui va avec et qui peut vraiment permettre aussi de couvrir l'ouvrage sur plusieurs plans. Si c'est piraté, du coup, l'auteur ne bénéficie pas de son ouvrage. Certes, l'auteur sera connu parce que c'est piraté, ça va partir. Malheureusement, l'auteur ne bénéficiera pas de gain de cause de son livre. C'est juste ça le problème. Maintenant, on était en train de développer une application qui permettait aux gens, si se connecter sur l'application, l'application peut leur permettre de lire les ouvrages directement en ligne sans pour autant copier cela. Malheureusement, on s'est confronté à un problème. Le problème, c'est que si une autre personne avait la même application de programmation comme nous, la personne peut reprogrammer le livre, l'application en question et copier tout ce qu'il y a dedans comme livre. Donc du coup, on s'est confronté à ce problème-là et on a bien peur de laisser le contenu et encore là se faire pirater et voilà, retrouver l'ouvrage des gens. Donc là, on est toujours en train de se dire, si on parvient à avoir une bonne structure qui peut nous former afin que nous puissions développer une thématique, donc une application pour nous permettre de mettre à disposition des ouvrages numériques, ça serait une bonne chose.
Et qui fait l'application?
C'était moi qui faisais l'application, c'était moi-même. Donc voilà, j'ai développé une application qui est appelée Bukuna Maboko, qui en sanglo veut dire livre en main. Et en français plutôt, veut dire livre en main. Donc livre en main, en fait, c'était quoi? C'était que la personne puisse avoir accès au livre centrafricain en main, c'est-à-dire sur téléphone portable, sur smartphone, sur son ordinateur, et ainsi de suite. Mais malheureusement, l'application, voilà, comme je l'ai dit, a des petites difficultés, voilà, au niveau de la protection du contenu. Oui, maintenant, au niveau des livres universitaires ou des livres pédagogiques, comme je l'ai dit, on a ce problème-là de travailler en commun accord avec le gouvernement et le système éducatif centrafricain. Car eux, ils ont une politique, une vision qui est totalement... qui n'intègre pas les structures locaux dans leur système de fonctionnement. Donc, on a négocié des accords de partenariat avec le ministère de l'Éducation qui sont jusqu'alors restés entre griffes, pas vraiment fructueux. Et imaginez-vous qu'une structure de production de livres qui est installée depuis 2017 à 2020, qui ne bénéficie pas d'une seule subvention en provenance de l'État ou d'une autre institution. C'est pas faute défaut d'avoir déposé des demandes de subventions et des projets aussi intéressants. Mmh. On a fait plusieurs démarches, malheureusement, en retour, on reçoit absolument rien, aucun accompagnement. Et comme on s'est dit que c'est un business plan qu'on avait développé nous-mêmes, mmh, et on a une petite base de savoir comment ressortir un peu de la plus-value pour nous permettre, ouais, de fonctionner, c'est ça qui nous permet de fonctionner encore jusqu'alors. Mais sinon, on aurait déjà fait faillite depuis il y a de cela bien longtemps, car le véritable problème, c'est cela, le besoin en production de livres arrive, mais nous, on n'a pas vraiment les moyens nécessaires pour continuer à en produire et en grande, ouais, quantité, vu qu'on n'a pas d'accompagnement, on n'a absolument rien. Bon, on fait importer cela du Cameroun. On fait importer du Cameroun, donc on a des structures là-bas qui nous facilitent un peu la tâche, donc nous, on va en acheter, et on revient là, on fait les découpes et on fait la production avec.